Romain Bardet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coureur cycliste, vous avez été deuxième du dernier Tour de France, français, je précise, car la dernière victoire française dans le Tour remonte à 85 avec Bernard Hinault. Vous êtes un personnage atypique du milieu, vous avez une licence de droit, vous êtes diplômé d'une grande école de management, vous habitez pas loin des montagnes, vous êtes où? Vous êtes à Grenoble?
Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, pas loin des montagnes, parce que vous êtes en grimpeur.
Oui.
Question toute simple, qu'est-ce que vous faites à Paris?
Je me ressource.
Ah bon? Votre source, elle est pas ici.
Oui, mais c'est vrai que durant la saison, on est beaucoup pris. On pense sport matin, midi et soir. Et...
Non, mais surtout, vous êtes sur les routes. Combien de jours par an? 300, 330?
Oui, je dirais 330. Et là, j'ai quelques jours avant d'attaquer le second bloc de la saison. Et c'est vrai que c'est important d'être un peu dans l'effervescence de la vie parisienne.
Ah bon, vous êtes un osseur? Vous êtes un fêtard?
Non, pas vraiment un fêtard. Mais c'est vrai que j'aime bien goûter de bons vins et manger de bons plats. Et ici, à Paris, il y a de quoi faire.
En septembre dernier, vous disiez que si le parcours du Tour de France 2017 ne vous était pas favorable, vous alliez tout donner sur le Tour d'Italie qui sera en mai. Ah, ce que vous avez dit, si un parcours défavorable, je le fais pas.
Non, le parcours est pas mal, est équilibré.
Est-ce qu'il y a plus de contre-la-montre ou moins que l'an passé?
Il y en a moins en tant que kilomètres, mais il y a deux étapes cruciales, la première et l'avant-dernière.
Parce qu'il faut dire, l'an passé, vous avez fini à combien d'écart de Froome?
Bonne question.
Vous ne savez pas?
Non.
De mémoire, c'est 5 minutes.
4 minutes ou peut-être.
4 minutes et des bananes. Mais surtout, vous aviez pris 3 minutes 30 dans la vue à cause des contre-la-montre. Donc sans les contre-la-montre, vous seriez à 1 minute de lui.
Oui, c'est vrai que le chrono, ça reste une grosse carence.
Est-ce que vous pensez qu'il vous sera possible de faire mieux la prochaine fois, c'est-à-dire donc en juillet, c'est-à-dire gagner?
Je pense que j'ai 26 ans, j'ai encore pas mal d'années de carrière devant moi. Mais surtout, je ne pense pas être à mon apogée physique. Donc c'est ce qui m'autorise à rêver pour encore les prochaines années.
Votre père, Philippe, qui était un ancien cycliste amateur, avait dit l'été dernier « Les meilleures années d'un athlète sont entre 25 et 30, donc 26 ans, vous venez de le dire. Romain n'en a que 25, oui, puisqu'il parlait l'an passé. Mais il faut que Chris Froome prenne sa retraite pour que Romain gagne le Tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec papa ?»
C'est vrai que pour l'instant, Chris Froome un petit peu vampirise la compétition et c'est compliqué.
Mais alors, est-ce que vous attendez qu'il prenne sa retraite?
Non, puisque c'est la beauté de ce sport aussi, c'est l'imprévisibilité et personne ne me voyait forcément dès l'année dernière sur la deuxième marche du podium, donc c'est la preuve que tout est possible.
Alors, vous avez des techniques spécifiques d'entraînement, l'altitude et la micronutrition. Alors, c'est quoi la micronutrition?
Alors, micro, ça peut faire croire qu'on ne mange pas beaucoup, parce que c'est vrai, on ne mange pas beaucoup quand même pour faire du vélo, ouais, vis-à-vis de nos dépenses.
Je me dis, tiens, ils prennent des akouskis.
Ça se voit. Non, mais c'est plus réfléchir en termes de qualité d'alimentation, trouver les bonnes graisses et les bonnes rations au bon moment pour optimiser justement à la fois la santé et la forme physique.
Et alors, l'altitude, c'est quoi votre programme?
C'est dormir à plus de 2000 mètres d'altitude et plutôt s'entraîner en plaine pendant des périodes de 15 jours à 3 semaines. Donc on va s'entraîner en bas et puis il faut remonter donc par un long col pour aller à l'hôtel le soir.
Vous remontez avec le vélo?
Exactement.
Autre chose qui m'a vraiment frappé, vous dites que l'amélioration des performances va passer par un meilleur matériel. Mais moi, je pensais que le matériel, ça changeait à la marge, à 0,5, à 1%, à 2% entre un vélo et un autre.
Non, c'est vraiment considérable. On peut estimer de 1 à 5 secondes au kilomètre sont possibles d'être directement liés au matériel utilisé. Et donc, c'est vrai que c'est la combinaison meilleur vélo et meilleur coureur qui donne les meilleurs résultats.
Non, parce que personne ne vous empêche d'acheter le vélo de l'autre, contrairement à la Formule 1.
Alors non, puisqu'on a des partenariats
des
qui sont des sponsors.
Ouais, mais ils fabriquent le même.
Alors, je vous cache pas que beaucoup de vélos sont certainement fabriqués dans les mêmes usines en Asie, mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'ingénierie, je pense, qui diffère sur l'architecture des cadres et qui fait qu'un vélo est plus ou moins performant finalement.
Alors vous êtes très romantique, vous dites que quand vous faites le tour, vous racontez que vous êtes à la fois acteur et spectateur et le matin vous lisez les commentaires de la course de la veille dans les pages sport.
Ouais, c'est vrai, un petit peu moins. Finalement, quand j'ai participé la première fois au Tour de France, j'étais un petit peu presque frustré de ne plus pouvoir avoir cette saveur-là, de le découvrir chaque matin en tant que simple spectateur.
Ouais.
Et c'est vrai que plus tard, alors je ne sais pas si je le ferai, mais ça me plairait de faire un Tour de France en camping-car à suivre la course parce qu'il a l'air d'avoir vraiment une ambiance fabuleuse au bord des routes.
En camping-car?
Pourquoi pas?
Et juste un mot, est-ce que ce qui est raconté dans les journaux correspond à la réalité?
Majoritairement oui. Alors bien sûr, il y a un petit peu de romance, mais je dirais finalement qu'on est quand même très bien informé sur ce qui se passe sur les routes.
Romain Bardet avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Romain Bardet avec nous, coureur cycliste professionnel évidemment, deuxième du Tour de France l'an dernier. Vous êtes français et vous serez en piste, en lice cette année. Ça démarre le 1er juillet à Düsseldorf. Je vais parler de la souffrance. Vous dites qu'on a moins mal quand on est en tête.
La concurrence me transcende. Le rapport de force est inversé, je fais mal à mes adversaires et c'est ce qui me stimule davantage.
C'est quoi votre limite à la souffrance?
Chaque année, on vit moins mal avec et la limite, c'est finalement c'est celle qu'on veut bien se fixer.
Alors vous êtes un des coureurs qui a pris les positions les plus radicales contre le dopage. Votre équipe fait partie du mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC. Vous êtes même favorable à des contrôles de nuit?
Oui, puisque je pense qu'ils seront faits en bonne intelligence. Si c'est pour améliorer la répression, moi je suis totalement favorable.
Autre mesure que vous proposez, mesure de bon sens, vous dites que les coureurs ont le droit de prendre des corticoïdes parce que c'est utile pour soigner certaines pathologies, mais dans ce cas, ils n'ont pas le droit de courir. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec ça?
C'est le véritable problème, le débat est absolument récurrent depuis plusieurs années. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on a une législation qui est beaucoup plus restrictive que beaucoup d'autres pays sur cette question qui est pour moi fondamentale des corticoïdes, puisqu'il a été prouvé qu'elles amélioraient les performances. Il faut vraiment que les instances justement internationales puissent réguler davantage sur ce sujet, et c'est pas le cas.
Mais quand vous parlez de ça avec le président de la fédération, il vous dit quoi?
Le président de la fédération française,
mondiale.
Ah, mondiale.
De l'UCI.
Ah, mondiale, on le voit pas.
Ah bon?
Non.
Vous voyez jamais les instances dirigeantes?
Les instances dirigeantes, il y a un représentant des coureurs qui a beaucoup de mal à fédérer, dont la voix est très peu entendue au niveau des cadres finalement qui prennent les décisions.
Et en cas de dopage avéré, vous allez même plus loin, vous préconisez une mesure.
Si celui-ci avait à rendre les gains acquis entre guillemets frauduleusement lorsque la pratique dopante est avérée, bien peut-être ça permettrait d'annihiler un petit peu ses intentions.
Tout à fait autre chose, vous avez raconté l'ultime ascension de l'étape Albertville-Saint-Gervais que vous avez remportée,
oui.
Et j'ai lu ça dans le Parisien. Ils disent, dans la dernière ascension, il était coupé de toute information. Vraiment?
Non, j'avais pas d'information, tout à fait.
Ah
parce
bon
que non, mon oreillette ne marchait pas. Vous savez, j'avais été pendant 18 étapes dans la meute, entre guillemets, et de pouvoir un petit peu s'en échapper comme ça, le temps d'une montée, c'était absolument grisant comme sentiment.
Et alors, quand vous arrivez au sommet, vous savez pas où sont les autres?
Non, puisque l'effort est tellement intense que pour le soutenir, il me fallait vraiment que je sois concentré que sur mon coup de pédale et justement de fendre cette marée humaine qui s'ouvrait devant moi.
Je vais parler de vos études. Vous êtes considéré comme l'intello du peloton. Ça vous fait rigoler ou ça vous énerve? On vous a vu en photo, avec le monde diplôme à la main, des livres, mais vous récusez ce terme d'intello du peloton, pour quelle raison?
Oui, puisque m'intéresser au monde économique, à la géopolitique, à l'économie, c'est des choses que je fais dans ma sphère privée et je pense que c'est pas...
Pardon de vous dire ça, mais il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas un passe-temps et que c'est une prise de tête.
Oui, certainement.
D'où le mot intello.
Ça reste très personnel comme sujet.
Je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que vous récusez également le cliché du cycliste juste bon à appuyer sur les pédales.
Oui, puisque je pense que le sport aussi n'est qu'une partie de ma vie. Si je suis bien sur le vélo, c'est parce qu'aussi en dehors, je suis épanoui et je l'ai été pendant de nombreuses années en faisant mes études à côté de ma carrière cycliste.
Dis donc, je connais plein de gens qui sont épanouis, je connais personne qui monte un col à votre vitesse.
Non, mais il suffit pas d'être monté des cols vite pour être épanoui, c'est vrai. Mais simplement,
non, c'était l'inverse. Il suffit pas d'être épanoui pour monter un col vite.
Oui. Mais je pense que pour moi, c'était plus un équilibre de vie.
Ouais.
Et mon parcours est de moins en moins atypique et vraiment, je m'en réjouis puisqu'il y a beaucoup de formations maintenant qui sont proposés aux sportifs de haut niveau, qui avec de la bonne volonté peuvent trouver justement des parcours aménagés pour être diplômés et vraiment pendant leur carrière sportive.
Vous avez fait 3 ans de droit, une école de management sportif. En quoi ça vous sert?
Ça me sert aussi à relativiser toute l'importance qu'on peut donner à la pratique cycliste, puisque ça reste du sport.
Ah, je pensais que vous me disiez 3 ans de droit, ça me sert à rédiger mon contrat ou à relire les petits
caractères. Alors bien sûr,
d'un
point de vue pratique, c'est vrai que ça me permet de pas perdre la main, entre guillemets, mais c'est surtout aussi d'avoir eu la chance de baigner dans ces deux mondes, d'avoir pu assouvir les deux simultanément. Ça a été pour moi la plus grande réussite, bien plus que n'importe quelle victoire sur le vélo.
Romain Bardet avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Romain Bardet avec nous, coureur cycliste. Vous faites attention à ce qui s'écrit sur vous?
J'y suis moins sensible que dans mes jeunes années, et quand, entre guillemets, j'avais une médiatisation grandissante, c'est vrai qu'on a tendance à regarder un petit peu tout ce qui se dit. Maintenant, j'ai pris beaucoup plus de recul.
C'est vrai que quand vous aviez 8 ans, vous achetiez déjà l'équipe.
Alors, je l'achetais peut-être pas directement, mais mon père l'achetait, donc je la lisais.
Ah, alors non, parce que moi j'ai lu autre chose, mais vous allez me dire c'est dans l'équipe. Il paraît que vous achetiez l'équipe, alors que votre père lui-même l'avait déjà acheté, donc il y avait 2 numéros à la maison.
C'est arrivé.
À 8 ans, vous alliez tout seul chez le marchand de journaux.
Quand j'entraînais mes sorties vélo, à côté de la boulangerie, il y avait une librairie et j'en profitais pour assouvir ces deux choses.
Est-il vrai que dans les courses de jeunes, quand vous n'étiez pas premier, vous balanciez votre vélo?
Alors là, c'est arrivé aussi.
Mais c'est arrivé une fois ou c'est arrivé tout le temps?
Non, pas tout le temps, parce que j'étais quand même souvent battu, donc sinon
ouais.
Mes parents m'auraient sûrement grondé, j'aurais cassé beaucoup de vélos. C'est vrai que j'étais plutôt mauvais perdant étant jeune, mais voilà, là aussi la raison et la sagesse ont grandi au fil des années.
Mais comment on peut être mauvais perdant quand on fait ce sport? Puisque alors, quand vous êtes dans un peloton de 180, il y a 179 qui ne gagnent pas.
Oui, tout à fait. Mais maintenant, je prends mon plaisir également à travers des bons résultats ou des comportements et pas seulement dans le résultat brut.
Qu'est-ce qu'il y a quand on gagne une étape chez vous, à G2R, la mondiale, comme récompense? Il y a des équipes où ils ont une pizza. Vous, il y a quoi ?
Nous, c'est une bonne bouteille de vin rouge le soir à table.
Et c'est pas un dopant, le vin ? Non, l'alcool ?
C'est un excellent relaxant.
Mais je croyais que c'était interdit, justement, plaisanté. L'alcool, que c'était considéré comme dopant ?
Non, pas du tout. Non, non, c'est un des derniers plaisirs qui nous reste.
Et je me trompe ou la caféine est un dopant ?
Alors, la caféine est contrôlée, c'est-à-dire que sous certaines doses, elle est considérée comme stimulante, mais pas dopant proprement dite.
Vous avez le bac S, le bac scientifique. Est-il vrai que vous avez raté la mention bien pour un dixième de point ?
Effectivement, c'était pas grand-chose, mais voilà, ça correspondait bien aussi à l'investissement que j'avais mis en année de terminale, donc c'était un juste retour des choses.
Est-il vrai que l'intello de la famille, c'est pas vous, c'est votre petite sœur ?
Bien sûr, moi je me suis jamais considéré intello.
Dites la note qu'elle a eue au bac, la moyenne ?
Je sais plus, c'était assez stratosphérique.
Moi j'ai lu 19,44.
Oui, ça doit être ça. Excellent.
Est-il vrai, c'est vous qui l'avez dit, que vous êtes un faux maigre ?
Oui, oui, oui.
Alors attendez, je vais dire, parce qu'on n'a pas la photo. Vous faites 63 kilos pour 1m84. Je suis désolé de vous décevoir, mais vous êtes un vrai maigre.
J'ai une allure très longiligne, mais c'est vrai que j'ai des plis adipeux qui sont totalement dans la moyenne et je suis pas spécialement maigre durant les premiers mois de saison. Après, c'est vrai que pour le Tour de France, on arrive à perdre un petit peu plus de poids et c'est nécessaire pour être au haut niveau.
Est-il vrai que vous refusez d'accrocher le parcours du Tour dans votre chambre ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Je le vois assez en vrai pendant 3 semaines.
Ah, moi je pensais que vous vouliez vous concentrer à tel jour je vais faire ça, tel jour je vais me reposer.
Non, non, non. J'essaie vraiment d'avoir un petit peu un univers assez déconnecté du vélo lorsque je suis chez moi. J'ai pas besoin de ce poster-là dans la chambre pour être à 100% sur le Tour de France.
Est-il vrai que le Tour de France va passer cette année dans votre village natal ?
Non, il va passer dans mon département, on va faire étape même pour une journée de repos, puis en Velay.
Mais il passe pas par Brioude ?
Il passe pas par Brioude.
Parce que c'était prévu, il devait passer par Brioude.
Il y passera certainement.
Est-il vrai que vous avez un hobby ? Une fois encore, le vin ?
Oui, alors je suis amateur, mais c'est vrai que je m'initie avec grand plaisir à l'œnologie et surtout aux découvertes et aux rencontres que déguster une bonne bouteille de vin procure.
Parce que quand je vous vois comme ça, on ne vous imagine pas en pilier de bar.
Non, je suis pas un pilier de bar, je vous rassure pour autant, mais je pense que c'est une pratique un petit peu épicurienne. Ça occasionne des découvertes, de beaux voyages.
Est-il vrai que ça vous a fait un drôle d'effet de rouler dans Paris, à vélo, mais en Vélib ?
Oui.
Pourquoi ?
Tout à fait. Puisque je me suis senti vraiment aussi un petit peu en danger, parce que contrairement à certaines métropoles européennes, on a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire pour l'aménagement et permettre justement que le vélo soit un vrai moyen de déplacement.
Mais où est-ce que vous avez eu peur ? Au feu rouge ?
Au feu rouge, sur certaines rues non aménagées avec des pistes cyclables.
Non mais attendez, vous m'arrêtez si je me trompe, vous roulez à la vitesse des voitures, vous ?
Oui.
Vous roulez à 50 à l'heure.
La majorité du temps.
Oui. Donc il n'y a pas de danger.
Et si justement, puisqu'on est moins bien vu, et puis voilà, on n'a pas forcément sur les vélos de course, vous savez, toute la signalétique qui sécurise. Hein. Mmh. Alors heureusement, bien sûr, on porte un casque, mais c'est vrai que parfois on se sent un petit peu en danger. Oui.
Merci beaucoup Romain Bardet d'être venu nous voir.